Depuis quelque temps, le MPEP, le Mouvement Politique d'Éducation Populaire, développe un nouveau concept, on pourrait dire, qui est le concept de la désobéissance européenne. C'est quoi ça ?
Alors ce concept de désobéissance européenne, d'abord il faut le resituer par rapport à une analyse sur la construction européenne. Au MPEP, on dit clairement que la construction européenne est faite pour empêcher toute politique de gauche. On le voit bien au quotidien avec les directives sur les services publics, sur le temps de travail, les directives sur les OGM, et qu'on a un carcan libéral qui a enfermé les États et qui aujourd'hui les empêche de mener une autre politique que l'ultralibéralisme, l'eurolibéralisme, comme on peut dire, pour qualifier ce libéralisme à l'européenne. Et que donc, si on veut mettre en œuvre une véritable politique de gauche, eh bien, il va falloir s'affranchir du cadre législatif européen et donc pratiquer ce qu'on a appelé la désobéissance européenne. Alors pourquoi la désobéissance européenne ? Pourquoi ce terme ? Parce que ça renvoie bien sûr à la notion de désobéissance civile, donc qui elle-même renvoie à des personnages comme Gandhi, comme Martin Luther King, qui renvoie plus récemment à une autre échelle aux gens qui s'opposent aux OGM et qui transgressent la loi, puisque il va falloir transgresser les lois européennes pour mettre en œuvre une politique de gauche. Alors il y a des points communs avec la désobéissance civile, et il y a des points de divergence. Je crois que le point commun, c'est de faire bouger les lignes, et de faire bouger les lignes dans le cadre d'un débat public. Donc on ne peut plus supporter ce libéralisme qui s'impose aux États, y compris à des États qui voudraient mener des politiques de gauche. Et il faut le dire, et il faut dire pourquoi on est prêt à désobéir. En même temps, il y a une légitimité profonde, puisque la notion d'obéissance, quand on parle d'obéissance, c'est accepter des ordres, accepter d'aller dans une direction, mais accepter en connaissance de cause, parce qu'on sait que ça va dans le bon sens. Et on sait que ça profite à l'intérêt général. Et obéir, c'est totalement différent de se soumettre. Parce qu'à partir du moment où les ordres, à partir du moment où le mouvement qu'on doit suivre ne va plus dans le sens de l'intérêt général, on n'est plus dans l'obéissance, on est dans la soumission. Voilà. Alors après, la principale différence avec la désobéissance civile, c'est que la désobéissance civile met en cause la force contraignante de la loi, alors que la désobéissance européenne, il s'agit de dire qu'on remet en cause la hiérarchie des lois. C'est-à-dire qu'on refuse que le droit européen s'impose et impose des politiques libérales aux États, mais par contre, on reste bien sûr dans un système républicain où la loi nationale conserve toute sa valeur.
Tout à l'heure, vous disiez que la construction européenne était faite pour empêcher toute politique de gauche. On pourrait vous dire, mais non, il suffit juste d'attendre que tous les pays européens ou une majorité d'États européens soient gouvernés par des gens de gauche, par des gouvernements de gauche. Et à ce moment-là, il n'y a plus besoin de désobéissance européenne. C'est-à-dire, par nature, on arrivera à une construction sociale chère aux socialistes, par exemple, non ?
Oui, alors ça, dans l'absolu, on peut toujours imaginer que ce soit possible. On peut rêver une Europe qui soit complètement différente. On peut rêver des gouvernements qui soient tous de gauche et qui soient tous d'une vraie gauche. Alors, pas de la social-démocratie qui s'accommode très bien du système. Mais le fait est que ce n'est pas le cas. Et qu'on ne peut que constater que depuis des années, des décennies, on construit une Europe de plus en plus libérale. Alors avec des directives de privatisation, avec la directive Bolkestein, avec des directives qui mettent en place le marché du carbone, qui empêchent toute fiscalité écologique. Et voilà, c'est véritablement le sens de la marche. Et donc la question, c'est jusqu'à quand est-ce qu'on peut tolérer ça ? Et est-ce qu'on est prêt, effectivement, à attendre que nos rêves se réalisent ? Parce qu'on rêve tous, évidemment, d'une Europe solidaire, démocratique, où les peuples pourraient s'exprimer et où la politique européenne serait représentative du souhait des peuples. mais s'il faut attendre 20, 30, 50 ou 100 ans que cette situation-là se présente, eh bien, entre-temps, on aura continué à détruire le social, à détruire l'environnement, à détruire les solidarités. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut plus attendre. Et la crise dans laquelle on est rentré a encore renforcé ce sentiment. Et puis, je dirais que les choses s'aggravent à une vitesse incroyable. Et le dernier scandale en date étant quand même le refus de l'Union européenne d'entendre l'expression démocratique des peuples. Alors, le peuple français, quand il a voté non, le peuple néerlandais et maintenant le peuple irlandais. Et on voit bien qu'on est dans une machine infernale qui va vers toujours plus de libéralisme et qui s'affranchit totalement de la souveraineté populaire. Donc, il faut agir. Et on est dans une situation qui peut se résumer assez simplement. On a une gauche de gauche dans un certain nombre de pays qui fait des propositions tout à fait intéressantes. Mais si on prend ces propositions et si on les pointe une par une, et qu'on regarde si elles sont compatibles ou non avec le droit européen, eh bien, il y en a peut-être 5% qui, au final, seront compatibles avec le droit européen. C'est-à-dire que sur un programme progressiste, 95% des décisions ne pourraient pas être appliquées parce que l'Union européenne empêcherait la mise en œuvre de ces propositions. Donc à partir de là, pour une gauche de gauche aujourd'hui, il y a deux solutions. Soit elle continue à décrire le monde idéal dans lequel on rêve tous de vivre et qui verra peut-être le jour dans quelques décennies, peut-être pas. Soit elle dit, pour mettre en œuvre notre programme politique, il faudra pratiquer la désobéissance européenne, et on est prêt à pratiquer la désobéissance européenne. Et je crois que la volonté du MPEP, c'est vraiment de mettre ce débat sur la table, parce que c'est le débat central. C'est pour ça que la gauche est complètement prisonnière et complètement dans l'échec aujourd'hui, parce qu'elle refuse de poser ce débat sur la table. Et une fois qu'on l'aura posé, eh bien, on verra quels sont les partis qui acceptent l'idée de la désobéissance européenne et ceux qui ne l'acceptent pas. Et là, on pourra trier, et là, on pourra savoir pour qui voter.
Et concrètement, ça pourrait prendre quelle forme, cette désobéissance européenne ?
Alors concrètement, il y a plusieurs niveaux. Il y a une désobéissance européenne défensive et une désobéissance européenne offensive. Alors la désobéissance européenne défensive, eh bien, ce serait de faire de la résistance. Et ce serait de refuser la transcription en droit national des directives libérales. Alors, quand on dit les directives libérales, effectivement, ça en fait beaucoup. Donc il y a déjà de quoi faire. C'est les directives de libéralisation, c'est la dérégulation du marché de l'énergie, par exemple, c'est la directive Bolkestein, c'est la directive sur les OGM, celle qui instaure le marché des droits à polluer. Enfin bon, il y a largement de quoi faire. Mais ce n'est pas suffisant, parce que là, on est simplement dans la résistance. Et il faut une désobéissance européenne offensive, c'est-à-dire une désobéissance qui permette de reconquérir du terrain, de reconquérir ce qu'on a perdu à travers quelques décennies de libéralisme effréné. Donc c'est reconstruire des services publics, donc des services publics qui ont été privatisés, libéralisés. C'est créer de nouveaux services publics pour répondre à de nouveaux besoins. C'est, par exemple, faire une loi nationale qui interdise définitivement la culture d'OGM et pas simplement utiliser une tolérance que permet la directive européenne pour momentanément éviter qu'on ait des OGM pendant un an ou deux, mais vraiment faire une loi d'interdiction, comme le veut la majorité des citoyens. Voilà, c'est vraiment reprendre la main et pouvoir mettre en œuvre des politiques de gauche et construire. On n'est pas simplement dans la résistance, on est dans la construction. Et bien sûr, ça veut dire que on serait attaqué par l'Union européenne, qui pourrait évidemment pas supporter qu'on crée du droit qui soit contraire au droit européen. Et qui dit désobéissance européenne dit bien sûr refuser de payer des astreintes, puisqu'on serait condamné à des astreintes, et évidemment, il s'agirait de refuser de les payer. Et le dernier exemple qu'on peut donner, en matière de politique agricole, par exemple, où l'Union européenne fait la promotion d'une agriculture intensive, donc qui utilise des quantités phénoménales de produits chimiques, qui donc pollue, qui produit des aliments de mauvaise qualité, qui détruit la paysannerie. Il est évident qu'il serait hors de question d'abonder le budget de la politique agricole commune pour mener ce genre de politique. Donc la dernière façon de désobéir, eh bien, ce serait de ne plus donner d'argent pour pratiquer ces politiques libérales, et donc d'utiliser ces moyens financiers autrement, et par exemple au niveau agricole, eh bien, en développant une agriculture respectueuse de l'environnement, une agriculture paysanne, en réorientant la production pour aller vers plus d'autonomie, et puis en développant aussi des coopérations avec d'autres États, puisque bien sûr l'idée c'est pas de se replier sur des frontières nationales, c'est pas parce qu'on s'affranchit du cadre de cette Union européenne-là, qui est une construction européenne parmi d'autres qui auraient été possibles, on va pas se replier, il faut créer des nouvelles alliances, et donc on pourrait comme ça développer de nouvelles alliances et développer des partenariats agricoles par exemple avec d'autres pays qui seraient sur la même ligne, et d'ailleurs qui soient dans l'Union européenne actuelle ou non. Voilà, et c'est la même chose en matière de fiscalité, où aujourd'hui il est clairement exclu de prendre des mesures protectionnistes dans le cadre de l'Union européenne, et on voit très bien à quoi conduit le libre-échange, où on est dans une désindustrialisation qui est absolument catastrophique, où les grandes multinationales vont s'implanter dans des pays à bas coût de main-d'œuvre, et où on n'a quasiment aucune protection environnementale, et donc vont polluer loin, mais vont polluer autant qu'elles veulent. Et on voit bien les conséquences sur l'emploi, les conséquences sociales dans les pays industrialisés. Et ce libre-échange mène également à une perte de contrôle démocratique sur la production. Parce que bien sûr, une usine qui est implantée en Chine, eh bien, on ne peut pas la contrôler démocratiquement, on ne peut pas influencer les choix de production, on ne peut pas influencer les méthodes de production. Et donc il faut casser cette spirale libre-échangiste. Et donc le seul moyen, c'est de mettre en place une nouvelle forme de protectionnisme qui soit un protectionnisme écologique et social. C'est-à-dire qu'on taxe les importations sur la base de critères environnementaux et sociaux. Et donc ça, c'est un exemple, peut-être un des meilleurs exemples du besoin de pratiquer la désobéissance européenne, parce que un tel protectionnisme ne verra jamais le jour au niveau de l'Union européenne. Il faudrait d'abord que les 27 États soient d'accord, et puis en plus que la Commission européenne en ait envie. Donc il faudra le pratiquer à une autre échelle. Et si un État voulait mettre en place ce type de mesure, eh bien il faudrait faire de la désobéissance européenne.
On pourrait vous dire, finalement vous proposez quelque chose qui se fait au plan national, si j'ai bien compris, même si ensuite ça peut être des décisions conjointes de différents États, ils peuvent toujours tomber d'accord pour faire la même chose. Mais finalement, vous remettez en cause d'une certaine façon, enfin, votre proposition remet d'une certaine façon en cause l'Europe elle-même. Or, l'Europe est en elle-même un bien. Enfin, du moins, c'est ce que je comprends en écoutant les médias d'une façon générale et les politiques. Donc, je suis un peu surprise, parce que ça risque vraiment de mettre en cause cette construction qui a demandé beaucoup d'efforts et qui est une nécessité.
Alors ça, c'est l'illustration d'un amalgame qui est fait, qui est absolument insupportable, qui est un amalgame entre l'idée d'Europe et la construction européenne qu'on subit, qui est cette Union européenne qu'on a construite. Évidemment, l'idée d'Europe a toujours un sens. Évidemment, l'idée de solidarité, de coopération entre les peuples a toujours du sens. L'idée d'éviter les guerres, l'idée d'éviter les crises a du sens. Mais si on regarde l'histoire de l'Union européenne, eh bien, on voit que c'est absolument pas le cas. L'Union européenne n'a pas évité les guerres. On a eu une guerre terrible en ex-Yougoslavie, et l'Union européenne a absolument pas évité ça. L'Union européenne n'évite pas les crises. Sinon, on ne connaîtrait pas la crise dans laquelle on est. L'Union européenne ne permet pas d'aller vers plus de solidarité. Au contraire, on a une mise en concurrence entre les peuples, entre les économies. On va mettre en concurrence les pays d'Europe de l'Est avec un coût de main-d'œuvre faible, avec les pays industrialisés, et on tire tout vers le bas. Et je crois qu'il faut absolument sortir de ce débat émotionnel et où les européistes essayent toujours de ramener le débat sur le terrain émotionnel, bien sûr. Et il faut avoir une analyse objective des politiques européennes. Alors pour prendre un exemple, ce qui est formidable, c'est en matière d'environnement. C'est-à-dire que quand on regarde les discours des représentants de l'Union européenne, on a l'impression qu'ils sont plus écolos que Nicolas Hulot et Al Gore réunis. Mais quand on regarde les politiques de l'Union européenne, eh bien on est dans l'agriculture intensive, on est dans la promotion des OGM, on est dans le libre-échange, donc dans la consommation effrénée d'énergie, et donc on est dans la destruction de la planète. Et je crois que sur tous ces sujets, il faut faire un examen objectif des politiques européennes. Et donc, on n'est pas, bien sûr, contre l'idée de solidarité, l'idée d'empêcher les guerres, l'idée que les peuples échangent, communiquent, commercent même. Mais on est bien dans l'examen objectif des politiques européennes, à dire que cette construction est une construction ultralibérale, et que donc, si on veut une autre Europe, il va falloir changer non pas l'Europe, mais changer d'Europe, et peut-être construire quelque chose, eh bien, de haut en bas pour aller vers l'Europe qu'on souhaite.